Chapitre 56. Le 23 août 2016, 11h. Cette vieille femme n'était pas sa mère. Elle fixait Clotilde, le visage couvert d'un sang qui coulait encore, à moins que ce ne soit des larmes, teintées de rouge, à zébrer les hématomes tuméfiés. Elle les essuyait à l'aide de ses longs cheveux gris, telle une Marie-Madeleine pécheresse. Non, pensa Clotilde, tout en puisant dans ses souvenirs. La femme en pleurs devant elle ne pouvait pas être sa mère. La femme devant elle était plus vieille, une génération plus vieille. La femme devant elle était Elisabetta, sa grand-mère. Un mystère, un leurre, un malheur de plus. Clotilde n'eut pas le temps de s'interroger davantage. La cabane de berger fut soudain plongée dans l'ombre, comme si on avait tiré un rideau noir devant la porte. Clotilde se retourna. Elle ne se trompait pas, ou peu. Ce n'était pas un rideau, mais une robe noire qui obscurcissait la pièce. La robe de sorcière de Speranza, dont l'ombre transformait la pièce en caverne, pour que rats, araignées et scarabées sortent de chaque fissure entre les pierres pour saluer son arrivée. Speranza s'adressa à Elisabetta, ne prêtant aucune attention à la présence de Clotilde.
« Ils ont emmené Orsou. Il n'y a plus personne. »«
Qui ça, ils ?» hurla une voix dans la tête de Clotilde.
« Elle a tué Pacha !»
continua Speranza.
« Qui ça, elle ?»
Les mots cognaient dans son crâne. Peut-être que les sorcières communiquent par télépathie. Peut-être que si elle pensait très fort à sa question, les sorcières lui répondraient.
« La porte était ouverte quand je suis arrivée, »
fit Elisabetta. « Qui ?» demanda doucement Clotilde. « De qui parlez-vous ?» Aucune réponse. Peut-être que les sorcières sont sourdes. Peut-être que les fantômes n'ont pas de sonotone. Clotilde hurla cette fois.
« Où est ma mère ? Elle est vivante, m'a dit Orsou. Campa sempre. Où est ma mère ?»
Lentement, Elisabetta se leva. Clotilde crut qu'elle allait lui répondre, mais ce fut la voix de Speranza qui résonna dans la cabane de berger.
« Pas ici, Lisa. Pas ici. » « Si tu veux lui parler, parle-lui en bas !»
Elisabetta hésitait. La sorcière insista.
« Cassanou va rentrer. L'ambulance le déposera avant midi à Arcanou. Rien n'est prêt, Lisa, rien n'est prêt !»
Rien n'est prêt. Clotilde n'avait pas compris sur le coup. Elles étaient redescendues toutes les trois en silence vers la bergerie d'Arcanou, sans échanger un mot. Les vieilles femmes marchaient vite, presque plus vite que Clotilde. Elles semblaient connaître chaque branche où accrocher leurs mains ridées, chaque roche sur laquelle appuyer leurs pieds. Leurs jambes étaient habituées et leur corps maigre n'avait jamais été si léger à porter. Rien n'est prêt. C'était presque une panique. Tour à tour, elles consultaient la montre à leur poignet. Dès qu'elles furent arrivées, les deux femmes semblèrent oublier Clotilde. L'avocate se contenta de les suivre, se sentant inutile, telle une invitée arrivée trop tôt et qu'on laisse en plan pour achever les préparatifs. Directement, les deux femmes filèrent dans la cuisine. Elisabetta ouvrit le réfrigérateur.
Figatello aux lentilles.
C'étaient les premiers mots qu'elle prononçait depuis près de 30 minutes. Speranza ne répondit pas. Elle se contenta de se pencher vers les cageots de légumes et d'attraper les tomates et les oignons. Sa grand-mère avait déjà enfilé un tablier, sorti une planche à découper, déposer la pancetta et les figatelli. Enfin, comme rassurée, elle se tourna vers sa petite fille.
Assieds-toi, Clotilde. Cassanou a passé plus de 24 heures à l'hôpital de Calvi. Forcément, il n'aura rien mangé, tu penses. Leur jambon sous vide, leur yaourt et leur purée.
Elle consulta la pendule.
Pas une fois en 70 ans, Clotilde. Pas une fois. Lorsque Cassanou s'est assis à table, le repas n'était pas prêt.
Elle sourit tout en se lavant les mains.
Tu as du mal à comprendre ça, ma chérie. Ça ne fonctionne pas comme ça à Paris. Mais ici, c'est ainsi. Ce n'est même pas la faute des hommes. C'est nous qui les élevons ainsi depuis qu'ils sont petits.
Où est ma mère, mamie? Où est Palma?
Elisabetta regarda encore l'horloge, puis saisit un immense couteau.
Assieds-toi, je te dis, ma chérie. Je vais tout te raconter, avant que ton grand-père arrive. Les femmes corses savent faire cela, je te rassure. S'occuper d'une maison et parler.
Lisa peut-être, pas Speranza. La femme de maison découpait avec détermination la pancetta en lardons, les yeux baissés.
C'est une longue histoire, Clotilde. C'est ton histoire aussi, même si elle a commencé bien avant que tu naisses.
Elle quitta son couteau des yeux pour les lever vers la sorcière qui triait d'un geste précis gras et viande avant de continuer.
Il y a 50 ans, Speranza travaillait déjà à Arcanou, même si travailler n'est pas le bon mot. Elle habitait déjà ici, vivait ici et, comme aujourd'hui, s'occupait de tout avec moi. Le ménage, le repas, le jardin, les bêtes. La fille de Speranza, la petite Salomé, est née à Arcanou en 1948, 3 ans après ton papa. Salomé et Paul ont grandi ensemble, inséparables.
Elle fixa à nouveau Speranza, qui semblait uniquement concentrée sur la taille des dés de viande fumée qu'elle découpait.
Tout le monde savait ici qu'on finirait par les marier. C'était ainsi, c'était écrit. Plus les années passaient, et plus Salomé devenait belle. Grande, brune, avec des cheveux qui lui arrivaient jusqu'à la taille. Des yeux de biche de la forêt d'Aïton, une grâce de chevrette et un rire à faire se fissurer la citadelle de Calvi. Un conte de fées, ma chérie. Paul le prince, l'héritier de 80 hectares de maquis, et Salomé, la jolie Cendrillon sans un sou. Mais on se fiche de ça chez nous. Seul compte le clan, peu importe le rang. Dès 15 ans, on les a fiancés. Oui, ma chérie, un conte de fées. Il était une fois à la Rebellata. Paul et Salomé se marieraient et ils auraient beaucoup d'enfants.
Elle s'arrêta. Son poignet ferme coupa en 4 parts strictement égales le figatello. Un nouveau regard à la pendule. 11h27.
Tout a basculé l'été 68,
continua doucement Lisabetta, semblant avoir calculé la durée de son récit avec la même précision que celle de sa cuisson.
Sans qu'on se méfie de quoi que ce soit. À vrai dire, quand ton père a commencé à flirter avec cette jeune touriste franco-hongroise qui campait dans ce champ qui allait devenir le camping des Eupproctes, ça ne nous a pas vraiment inquiétés. Les Corses ici chassent l'hirondelle de Corse l'hiver et celle du continent l'été. Comme les autres filles, fin août, Palma serait repartie. Paul allait pleurer un peu devant le ferry, mais une semaine après, c'en serait terminé. C'est ce que je croyais. C'est ce qu'on croyait tous. Pourtant, ils se sont écrits. Si tu savais, ma chérie, comme j'ai eu envie de jeter au feu ces lettres tamponnées de Paris que le facteur montait à Arcanou. Si je l'avais fait, ma belle, bien entendu, tu ne serais pas là à m'écouter. C'est étrange de te dire ça, mais tant de drames et tant de morts auraient été évités. Si tu savais, ma pauvre chérie, combien de fois je me suis maudite de ne pas les avoir brûlés.
Elle délaissa un instant les lentilles qu'elle triait pour prendre doucement la main de sa petite fille.
Paul a rejoint Palma une première fois à Paris, à Noël, en 69. Puis une autre fois à Pâques, puis à l'Ascension. Puis il est resté là-haut et on ne l'a pas revu de l'été. Il l'a passé dans les Cyclades. Il nous envoyait des cartes de Naxos, de Syphnos, de Santorin, comme pour rendre notre île jalouse. Il s'imaginait peut-être qu'on ne l'était pas déjà assez. C'était fini, on l'avait tous compris. Tous, sauf Salomé. La pauvre malheureuse. On était tous conscients que jamais elle ne parviendrait à oublier Paul. Et que même si elle essayait, son amoureux d'enfance revenait chaque été, avec sa femme d'abord, avec sa femme et son garçon ensuite, dès l'été 71, avec sa femme, ton frère et toi, dès l'été 74, puis tous les autres étés qui ont suivi. On vous accueillait à Arcanou. On faisait bonne figure. J'apprenais même à ta mère à cuisiner les figatelli, les fiadone et le civet de sanglier. Speranza allait cueillir avec elle les herbes, l'origan, la menthe, l'angélique. On l'accueillait avec hospitalité parce qu'elle était de la famille, même si elle nous avait volé notre fils, même si on lui en voulait. Même si au fond, rien que pour ça, on ne l'a jamais aimé.
Elle s'inquiéta de l'heure, 11h32,
lâcha la main de Clotilde et versa les lentilles dans une marmite remplie d'eau bouillante. Speranza épluchait les oignons sans laisser paraître la moindre émotion.
« Chaque été, » continua Elisabetta en évitant de regarder Speranza, Salomé s'éloignait pour pleurer. C'était une fille fière, alors elle préférait se cacher pour ne pas voir Paul embrasser sa femme sur la plage de l'Alga, pour ne pas le voir jouer avec ses enfants, pour ne pas se crever les yeux face à ce bonheur qui aurait dû être le sien. C'est pour cela, ma chérie, que tu ne l'as presque jamais vue. »
Elle versa les lardons et les oignons dans une poêle, ajouta de l'huile d'olive.
Mais le temps était l'allié de Salomé. Du moins, c'est à cet espoir qu'elle s'accrochait. Entre les Pénélopes et les salopes, ce sont toujours les premières qui finissent par triompher.
Le mot « salope » dans la bouche de la vieille Elisabetta fit sursauter Clotilde. Quelle haine fallait-il qu'éprouve sa grand-mère pour employer un terme aussi grossier ? Speranza ponctuait les mots par le bruit des assiettes qu'elle empilait.
« Après une dizaine d'années, » poursuivit Elisabetta, « tous les atouts de Palma se sont envolés. Tout ce qui avait séduit ton père, l'inconnu, la différence, l'exotisme, appelle ça comme tu veux. Pchit ! C'est toujours ainsi ici. Les Corses deviennent marins, professeurs, commerçants, pour partir, parce qu'ils sont jeunes, qu'ils ont l'impression d'étouffer sur leur île. Ils cherchent à mieux respirer ailleurs, d'autres odeurs, mais au bout du compte, seuls restent les parfums de l'enfance. Vois-tu, ma chérie, sa princesse austro-hongroise, à la place d'un palais, l'avait condamnée à habiter un pavillon dans une banlieue de Normandie, avec un jardin de 400 mètres carrés, quand ici 80 hectares de maquis l'attendaient. La vue sur les champs de maïs au lieu de celle sur la Méditerranée, et je ne te parle pas du soleil, des amis d'enfance ou de son métier de vendeur de gazon. Alors oui, la Corse lui manquait, mais il était coincé. Et forcément, inconsciemment, c'est à Palma qu'il le reprochait.
Elle contrôla la cuisson sur le feu, ajouta les tomates coupées, puis doucement reprit la main de Clotilde.
« Je ne sais rien de plus, ma chérie. Est-ce ton père qui a fait signe à Salomé ? Est-ce elle qui s'est rapprochée ? Je suis incapable de te dire quel été ils se sont reparlés, quel été ils se sont à nouveau embrassés, quel été ils se sont à nouveau aimés, si c'était le même jour ou si cela a pris des années. »
Elle leva brièvement les yeux vers Speranza.
« Je suis même incapable de te dire si ton père était sincère, s'il aimait encore ou non ta mère, s'il aimait à nouveau Salomé. Je ne sais rien de cela. » Personne n'en savait rien, ni moi, ni Speranza. Jusqu'à Noël 1988, Salomé s'est jeté du phare de la Revelata. Le docteur Pinheiro nous a pris à part et nous a dit que Salomé s'en sortirait, qu'elle n'avait rien, que les genêts avaient amorti sa chute, mais qu'il fallait pourtant qu'elle passe des examens complémentaires. Pas pour elle, a-t-il précisé. Pas pour elle, mais pour le bébé. C'est pour le bébé qu'il s'inquiétait.
Speranza s'essuya le coin des yeux avec son tablier, éloignant les épluchures d'oignons et de tomates.
Salomé était enceinte. Il était trop tard pour avorter. Le bébé s'était accroché. Il est né le 5 mai 1989. Il est venu au monde sans un cri, un bras, une jambe et la moitié du visage sans vie. Alors Salomé a adopté une autre stratégie, celle de la fille mère qui n'a plus rien à perdre, encore moins son honneur, mais qui ose tout pour sauver celui de son fils. Cet été-là, pour la première fois, Salomé ne s'est pas cachée. Elle s'est montrée à la plage, a posé sa serviette à 1 mètre de celle de ta mère, a dégrafé son haut au prétexte de donner le sein à son fils. Elle a arpenté le marché du port de Staresso, en robe légère, allant jusqu'à faire rouler sa poussette sur les escarpins de Palma. Bien entendu, ta mère savait qui était Salomé. Bien entendu, elle savait qui était le père du bébé. Oui, cet été 89, sans que tu la remarques vraiment du haut de tes 15 ans. Salomé a poussé ta mère à bout, et cela a fonctionné, sans doute au-delà de ses espérances.
11h36. Lisabetta ajouta les figatelli dans la poêle frémissante, saupoudra de thym, fit tomber une demi-feuille de laurier.
Ta mère a pris un amant.
Clotilde allait protester. Non, mamie, cela ne s'est pas déroulé ainsi. Il ne s'est rien passé entre Nathalie Angeli et ma maman. Mais sa grand-mère cogna le faitout contre le gaz, provoquant un son de gong qu'elle imagina destiné à la faire taire.
Salomé avait placé ton père devant ses responsabilités. Elle serrait le petit hors-sou entre ses seins, dans une écharpe enroulée autour de sa taille. Désormais, c'était gosse contre gosse, femme contre femme, Corse contre continent. Ta mère portait le nom d'Idrissi, 7 lettres au bas d'un registre de mairie, mais tout le reste, tout ce que le nom d'Idrissi représentait, c'est Salomé qui le possédait.
Une pensée fila dans le cerveau de Clotilde. Que papa, cet été 89, ait pu imaginer les abandonner, les laisser repartir sur le continent avec maman et rester là, à Arcanou, à élever un autre enfant, à fonder une autre famille. Lisabetta déboucha une bouteille de vin. Clos Colombou, 2007.
Tout a basculé en 1968, le 23 août, le jour où Palma a planté sa tente sur la Rebellata. Tout devait forcément se rejouer ce jour-là.
Elle goûta le vin, grimaça, avant de continuer.
Ta mère possédait encore l'avantage, je te rassure. Ton père était un homme de devoir. Jamais il ne vous aurait abandonné. Jamais il n'aurait laissé votre mère prendre le ferry avec vous, seule, sans lui. Palma allait gagner, comme chaque année. Ce 23 août, il avait décoré la table de roses jaunes, alors que les autres années, elles étaient rouges passion. Le jaune, dans le langage des roses, signifie la demande de pardon pour une faute, une infidélité. Le jour de la Sainte Rose, avec ton père, elle irait déguster le menu gastronomique à la Casa di Stella. Ils y passeraient la soirée, la nuit. Ils se réconcilieraient pour un an, jusqu'au prochain été. Salomé n'avait pas le choix. Elle devait tout miser ce soir-là. Je suppose que tu te souviens de ce dernier soir, ma chérie. Nous étions une quinzaine à table, des amis, des cousins, à prendre l'apéritif avant d'aller au concert de polyphonie à l'église Santa Lucia de Prezzuna. Mais tu ne peux pas connaître la suite, tu étais sortie de table. Tu t'étais endormie sur un banc, ta musique dans les oreilles.
Clotilde se souvenait de ses derniers instants. Son cahier ouvert, le rythme fou de la Mano Negra, les cris dans la cour auxquels elle n'avait pas prêté attention.
Lorsque Salomé est arrivée dans la cour d'Arcanou, portant dans ses bras le bébé, nous avons tous eu le souffle coupé.
Il y eut un silence. Lisabetta semblait hésiter à continuer. Lentement, Speranza se leva et marcha vers la pièce voisine. Lorsqu'elle revint, elle se contenta d'écarter les déchets de viande d'un revers de manche et posa un cadre sur la table. Sans un mot. C'était un portrait. Une femme, très belle. La peau légèrement hâlée. Les yeux noirs, effilés, glissant vers un nez fin, droit, un peu trop saillant, comme une fière ligne de crête tombant brusquement en cascade sur sa bouche entrouverte. Salomé, forcément. Clotilde fut troublée par cette inconnue dont le visage, la silhouette, lui semblait étonnamment familier. Lisabetta leva son couteau, qu'elle pointa vers la photo.
« Oui, ta mère et Salomé se ressemblaient. C'est sans doute pour cela que ton père l'a remarqué, lors de cet été 68. Mêmes yeux, même taille, même sourire, même grâce, mais avec ce supplément de mystère. »
Clotilde fixait le portrait. Des images remontaient à la surface, des images qu'elle avait presque effacées. Celle de la seule fois où elle avait vu Salomé, la veille de l'accident, avec son père, au phare de la Rebellata. De dos, jamais de face.